Mimi, tu répètes toujours les mêmes histoires.
Normal, c'est vendredi, c'est le best-of.
C'est déjà la fin de la semaine, on dit ça tous les vendredis, en joie du week-end qui arrive ou effrayé du temps qui passe si vite. On a couru, on a rempli des cases, on a eu des rendez-vous, des obligations, des petites joies glissées entre deux portes. Et déjà on s'arrête, on regarde derrière soi, comme à la sortie d'un film de cinéma. Est-ce qu'on a bien suivi l'histoire? Est-ce qu'on n'a pas manqué une scène? Alors moi je vous fais un peu cadeau, c'est vendredi puisqu'on reprend les morceaux, les voix, les images sonores de ces derniers jours. On se les repasse tranquillement, comme on referme un livre en laissant le doigt entre les pages pour ne pas perdre l'histoire. C'est ça le best-of. Pas juste un résumé, pas juste un replay. Un sac de voyage avec quelques instants qu'on ne veut pas laisser filer trop vite. On se remet dans l'ambiance, on rouvre la porte, on rattrape ce qu'on croyait perdu. Alors on y va. On se refait la semaine comme une balade au ralenti avec ce best-of. Souvenez-vous, lundi nous recevions Baba Diawara, la direction artistique du festival J2K. Il venait nous parler de la culture du hip-hop. Et c'est sur l'autre radio. Alors le hip-hop est né dans la rue, mais aujourd'hui il investit les scènes et les festivals à Laval et dans son agglomération. C'est le festival J2K qui porte cette énergie brute depuis maintenant 15 ans. Du 11 au 19 octobre, spectacles, battles et créations vont se déployer non seulement à Laval mais aussi à Saint-Berthevin et l'Huisserie. Un festival accessible pour tous les âges avec des tarifs volontairement abordables et une programmation qui mêle tête d'affiche et jeunes compagnies. Alors que garde le hip-hop de cette énergie brute qui l'a fait naître? C'est la question qu'on pose aujourd'hui à Baba Diawara, organisateur du festival J2K. Bonjour, comment est-ce que tu vas?
Margot, je vais très bien. Merci de m'accueillir.
Avec plaisir. Je le disais en introduction de cette émission, le hip-hop est né dans la rue, mais aujourd'hui il investit les scènes, les festivals. Quand tu as lancé J2K, qu'est-ce que tu avais envie de garder, toi, de cette énergie première?
C'est une super question. Ce que j'avais envie de garder en lançant J2K, c'est cette énergie brute dont tu parlais au tout début en présentant le sujet. C'est d'arriver dans les lieux tels que le théâtre ou d'autres lieux culturels en restant nous-mêmes, en restant soi-même, et que ça soit pas donc édulcoré, et puis d'inviter les populations auprès desquelles on travaille au quotidien et auprès desquelles on intervient à représenter leur code, et d'inviter et de convier tout un tas d'autres publics à venir aussi rencontrer tout ça, quoi.
On en est à la 15e édition. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir ce festival grandir depuis ses débuts? Et comment tu le décrirais à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le festival J2K? Quel mot tu utiliserais pour le définir?
Je le définirais en un mot, c'est compliqué, mais en tout cas, l'envie d'un esprit de fraternité à travers le hip-hop, et de faire découvrir des projets qui permettent vraiment à différentes personnes issues de différents milieux sociaux de venir kiffer sur des esthétiques qu'ils ne connaissent pas ou très peu, et de se rendre compte qu'en fait ils ont le cœur qui bat pour les mêmes choses, et qu'ils kiffent, qu'ils peuvent se retrouver à être assez subjugué par la même poésie sur les spectacles, la même dextérité à travers les artistes qu'ils voient sur scène. Et ça, c'est un challenge, c'est un esprit assez, même j'irais de compétition pour moi en tant que programmateur avec la casquette que j'ai sur le festival, c'est d'avoir ce défi-là, de toujours permettre cette rencontre des... C'est ça mon leitmotiv en tous les cas, c'est de faire rencontrer les différentes populations sur des esthétiques qui, au premier abord, pour certains publics, pensent que voilà, c'est pas forcément accessible pour eux. Et à la grande surprise, si on en est à la 15e édition, c'est parce que ça marche et que de plus en plus de monde est séduit par ce mouvement, parce que c'est un mouvement et c'est une culture au sens large.
C'est toi qui vas me le dire, mais chaque édition s'invente, se réinvente. Et quand je pense à nouvelle édition, je pense aussi nouveau visuel, et j'aime bien en parler avec toi. Comment tu le décrirais pour l'auditeur qui ne l'a pas forcément déjà vu, et comment est-ce qu'il a été pensé, ce visuel?
Ah, je suis obligé de dire mes secrets.
Ce que tu veux bien dire.
Comment il a été pensé ? Il a été pensé avec l'envie de ne pas répondre à des codes dans lesquels le hip-hop est habituellement, enfin peut être ancré. Quartier, tour, bâtiment, enfin béton quoi. Sur ces dernières années, on est dans une démarche où voilà, on a une histoire par rapport à la culture hip-hop à Laval. Et le blason qui est découvert par le jeune enfant, c'est une empreinte. La volonté, en tout cas, de laisser une empreinte et non pas juste une trace. Je pense que c'est difficile parce que j'ai pas envie que l'orgueil prenne le dessus par rapport à ce qu'on peut percevoir à travers là. Ce que je t'explique, mais je pense qu'il y a de nombreuses générations qui ont, à travers les cours de danse que j'ai pu moi donner pendant près d'une vingtaine d'années, qu'ont eu cette empreinte-là au niveau de jeunesse de caractère, et que c'est ces jeunes-là qui ont suivi toutes les actions autour du hip-hop. Je pense que J2K a laissé une empreinte dans leur cœur, dans leur famille, et ça fait partie des murs, ça fait partie des murs de Laval. Le blason qu'on retrouve, c'est un peu ça, cet esprit d'empreinte. Et puis le garçon, à travers son aspect métissé, représente l'aspect fraternité dont je te parlais tout à l'heure, en un seul personnage, d'avoir cet esprit où tout le monde se retrouve en une personne.
Cette 15e édition se déroule du 11 au 19 octobre. Quels sont les grands temps forts que tu aimerais mettre en avant ?
Dans la continuité, il y a le spectacle. Il y a tellement de... il y a tellement de...
C'est jamais évident. Hein.
Ouais, c'est pas évident. L'ouverture du festival avec le Hip Hop Game, ça va être donc un des temps forts du festival. Habituellement, on avait le battle qu'on mettait en place et qui est... Malheureusement, on n'a pas pu mettre en place cette année. Et je sais que beaucoup de Lavallois adorent ce moment-là. Mais le Hip Hop Game répond beaucoup aussi à cet esprit spontané, naturel, d'être soi sur le moment, sur l'instant. Et ce côté de découverte pour la première fois et de se donner comme on est la première fois sans filtre, ça fait partie de cet esprit-là hip-hop que j'avais envie de montrer un peu plus à travers la programmation. Donc le hip-hop game, c'est un moment important. Et comme le hip-hop aussi est un message de fraternité dont je te parlais tout à l'heure aussi, il y a les Foulées Roses qui sont le lendemain. C'est un autre événement avec une autre portée. Mais on a pour objectif aussi de parler de ce moment-là, d'un point de vue artistique. Mais ça, je ne vais pas en dire plus. Les gens le découvriront sur place. L'idée, c'est de faire une passerelle. Parce que l'hip-hop n'a pas, pour porter à la base d'être uniquement dans le divertissement. C'est un mouvement qui porte un message. Et à mon endroit, en tous les cas, si on ne peut pas être utile dans ce sens-là, pour moi, je n'ai pas réussi. Mon objectif principal n'est pas atteint. Donc le hip-hop game, en tous les cas, va scinder ces deux objectifs-là. Et c'est important pour moi. Macera à Saint-Berthevin, dès le lendemain, est un spectacle magnifique et un voyage qui parcourt différents pays. Et donc, il y a vraiment cet esprit de fraternité qu'on retrouve vraiment tout au long de ce spectacle-là. Et puis, dans un tout autre genre, il y a le spectacle de la compagnie Minuit 12, le samedi 18 octobre au théâtre, qui raconte un combat de femmes en Angleterre, des femmes de Green Common qui se sont mobilisées pour empêcher l'expansion d'une centrale nucléaire. Voilà, c'est encore un autre message à travers la danse. Voilà, si j'avais...
Le collectif qu'on aura le plaisir de recevoir justement à notre micro dans l'émission L'Agité du Local, dans le grand format de ce jeudi. Donc je le dis à l'auditeur de l'autre radio de ne pas manquer effectivement ce rendez-vous-là. On sera avec Jade Vergnès.
C'est pour ça que je voulais te tendre une perche.
Et alors c'est intéressant justement, tu rappelais que le hip-hop va au-delà du divertissement. C'est justement le slogan, on peut le dire, du festival depuis ces 15 années. Les spectacles sont proposés à des tarifs accessibles, parfois même gratuits. Et ça, c'est toujours une volonté forte aussi du festival.
C'est une volonté de la ville de Laval, parce que c'était un festival. On est agent de la ville avant tout. On n'est pas une association, parce que beaucoup pensent qu'on est une association, mais on n'est pas une association. On est épaulé grandement par l'association Cadence, qui est des anciens jeunes et des jeunes qui s'entraînent en marge moi, des apports que je leur fais à l'année au niveau des cours de danse hip-hop, et qui se sont structurés en association pour pouvoir nous épauler sur des actions qu'on met en place à l'année. Donc voilà, mais sinon, moi en ce qui me concerne, je suis agent de la ville, et c'est une volonté de la ville aussi de permettre l'accessibilité au plus grand nombre concernant cet événement.
Je le disais en introduction de notre échange, le hip-hop est né d'une énergie brute, d'un besoin d'expression dans la rue. On avait pu en parler pour la précédente édition ensemble. Quand il arrive sur scène, qu'est-ce qui garde cette intensité-là? Est-ce que quelque chose se perd? Est-ce qu'on retrouve justement autre chose ailleurs? Qu'est-ce que toi, tu aurais envie d'en dire?
Là-dessus, c'est assez compliqué de te faire une réponse, on va dire. En tant que programmateur, pour accéder au théâtre, il y a beaucoup de compagnies qui, malheureusement, parfois doivent aussi peut-être revoir leurs propos pour que ça réponde à des codes qui doivent être peut-être qui seront peut-être un peu plus compris par le grand public dans les théâtres. Et en tant que programmateur, moi, j'ai vu au fil des années, j'ai vu qu'il y a des projets qui ont perdu un petit peu de leur substance. Comme je te disais tout à l'heure, le hip-hop n'a pas forcément pour vocation à sa naissance d'être dans le divertissement. Il y a aussi une part d'engagement très, très prononcée par rapport à cette esthétique-là. Malgré tout, on ne va pas rester dans le passé. Le hip-hop est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, l'une des cultures les plus populaires du monde, et qui influence tout un tas de secteurs, de la mode au sport, dans tout un tas de secteurs. Mais néanmoins, en termes de représentativité au niveau des responsabilités de certaines structures culturelles en France, on ne retrouve pas non plus des personnes qui connaissent véritablement cette culture. Mmh. Et ce qui peut aussi expliquer ça, et que du coup, malgré le fait qu'il y ait une grosse expansion, puisqu'on va rester positif en termes de représentativité des spectacles sur les scènes telles que des théâtres ou autres, il s'avère quand même que ces spectacles s'inscrivent dans un festival. Là, par exemple, ça s'inscrit dans un festival hip-hop. Ça ne s'inscrit pas dans une programmation régulière. Et donc ça, je pense que déjà, ça dit beaucoup de choses. Si on était... Comme c'est une culture, je pense, qui est vraiment maintenant installée depuis près de au moins 5 à 10 ans maintenant, on n'aurait plus besoin d'avoir un événement complètement dédié à ça pour en faire la part belle et transmettre toute l'importance de cette culture. Donc, si on veut avoir la vraie substance de cette énergie-là, hip-hop, elle peut vraiment s'exprimer qu'à travers ce type de festival où on lui laisse l'espace, parce que moi je viens de cette culture et donc je comprends cette culture, et donc je vais laisser et je vais choisir des projets où je sais que sur des programmations un peu plus annuelles sur certains lieux culturels, je sais que ça sera compliqué pour certains chorégraphes de s'y faire une place. Donc voilà, l'importance des festivals comme le nôtre reste donc nécessaire.
Et c'est important j'aime bien, tu utilises effectivement le terme culture hip-hop. C'est pas une discipline, le hip-hop. En fait, le hip-hop, cette culture regroupe un grand nombre de disciplines. Et c'est ce qu'on peut retrouver justement dans l'ensemble de ta programmation. J'imagine que quand tu penses une programmation comme celle-ci, tu essaies justement d'avoir un petit peu chaque discipline qui peut trouver sa place.
La première chose à laquelle je pense, c'est le message. Au niveau des projets que j'ai envie de programmer, c'est est-ce que le message va s'adresser au plus grand nombre, malgré qu'il soit orienté hip-hop, est-ce qu'il a le potentiel pour pouvoir s'adresser au plus grand nombre? C'est les deux paramètres les plus importants pour moi.
Et alors, une chose importante, c'est que le festival met en avant l'improvisation. Je pense qu'on parle difficilement hip-hop sans parler d'improvisation. On le verra d'ailleurs en seconde partie d'émission avec la compagnie Art Track, qui justement nous en parlera très bien. L'improvisation, la créativité, mais aussi la rencontre des publics, c'est essentiel dans la culture hip-hop.
La rencontre des publics, elle est essentielle, parce que la culture hip-hop, c'est une culture qui a réussi à fédérer les différents publics, les différentes cultures. Je rappelle qu'elle vient des États-Unis et qu'elle est, elle a émergé avec les latino-américains, les afro-américains. Là, on parle très peu aussi de la culture asiatique, mais il y a aussi une grande part de la culture asiatique aussi sur certains pans esthétiques, notamment au niveau du break, où on retrouve pas mal de choses liées aussi à la culture asiatique. Mais c'est une culture qui est... Enfin, moi, du coup, on parle de quelqu'un qui a grandi dedans et qui, pour moi, en tous les cas, c'est une culture qui fédère, en tous les cas, qui fédère et qui laisse la possibilité aux personnes qui la pratiquent ou qui la regardent de se voir à travers les projets. Et ça, c'est important parce que, comme je parle souvent de représentativité, je ne sais pas si ça se dit.
Représentativité, si. on comprend très bien ce que tu dirais.
Bah, en tous les cas, voilà. Je pense que c'est important de pouvoir voir des projets et de se dire ouais, je me vois en ça. Et c'est hyper important parce que quand on développe tout un tas de projets et que certains publics sont laissés un petit peu sur le côté parce qu'elles n'arrivent pas à se retrouver, c'est toujours quelque chose où en tant que professionnel on n'a pas envie de, en tous les cas, on n'a pas envie de tomber dans ce piège-là en tous les cas.
J'allais te poser une question, qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle édition? Je pense peut-être que tu y as répondu en partie, il faut que les gens s'y retrouvent, s'identifient.
Exactement, Margot. C'est ça. Et puis on traverse une période où on est énormément divisé. Je pense que au-delà de la culture hip-hop, la culture au sens large rassemble. Donc juste nous de jouer notre partition dans ce sens-là. Et puis je pense que ça sera déjà pas mal. On a besoin de, et je reviens à cette notion-là de représentativité, on a besoin d'avoir des gens différents, tels que la France, elle est composée de personnes diverses et variées, d'origines diverses et variées, à certains endroits, pour raconter ces histoires-là, de manière à ce que ça puisse faire écho dans les têtes de beaucoup de jeunes dans les écoles et dans les collèges, dans les lycées. C'est important.
Et alors, le rendez-vous qui nous est donné, c'est à partir du 11 octobre jusqu'au 19 octobre.
Pas besoin de passeport, vous êtes déjà dans l'agité du local.
Dans quelques instants, le best-of de votre émission quotidienne L'Agité du local continue avec les coups de cœur Aime lire, mais avant ça on fait une pause musicale, on écoute Claude, In Extremis.
J'ai peur si tu restes, j'ai peur de tes gestes qui disent qu'on avance ensemble. J'ai peur de tes lèvres qui m'embrassent pour la millième fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? J'ai peur des SMS qui s'entassent depuis des années dans nos téléphones, c'est terrifiant. J'ai peur de l'appartement car il crie faut voir plus grand. Mais c'est quoi plus grand? Moi je suis à mon maximum. Sa dissonne, 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 sa disson j'ai peur du temps qui trace. Et nous deux, c'est la mesure la plus précise de nos vies qui rétrécissent. J'ai peur des vêtements que l'on se prête de temps en temps, comme si on n'était plus qu'une personne. Sun.
Et puisqu'on aime partager ce qui nous touche, on ouvre maintenant la page littéraire de ce best-of, place au coup de cœur de la librairie Émile Ranjou, un livre choisi, raconté, offert à l'oreille, écouté.
Émile Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une, non pas une chronique BD, mais une annonce. Le 4 et 5 octobre, c'est le festival BD à Château-Gontier et nous avons la chance, nous, Castello-Gontériens, de recevoir un invité assez exceptionnel que moi j'adore. C'est quoi ? On dit pas Castello-Gontérien ?
Castello, t'as dit ?
Ouais.
Castro.
Ah ! Ah ouais ? Eh ben écoute, je français en direct. Castro-Gontérien ? Eh ben ouais, on est des Castro-Gontériens, je ne savais pas. En tout cas, il n'empêche qu'on a la chance de recevoir un homme extraordinaire qui s'appelle Emmanuel Lepage. Alors Emmanuel Lepage, c'est un mec qui vit en Bretagne Nord, que j'adore et qui a fait une BD moi, que j'aime de tout mon cœur, qui symbolise vraiment la Bretagne, qui est Armen, qui est l'enfer des enfers, où on suit la construction du phare de Armen. Emmanuel Lepage, il dessine la mer comme absolument personne. C'est d'abord un peintre avant d'être un BDiste. Il a un sens de narration qui est très chouette, mais son dessin est absolument époustouflant. Et nous aurons la chance de le recevoir au Festival BD. Et il aura une très très belle expo qui fait une petite rétrospective de toute son œuvre. Franchement, je vous encourage à aller voir si vous aimez la BD, si vous aimez la mer, ou si vous êtes tout simplement curieux. Donc, c'est Emmanuel Lepage qui sera présent au Festival BD le 4 et 5 octobre de cette année. Au plaisir de vous y retrouver.
Retrouvez Aime Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou... Et sur l'autre radio.
Le vélo ne semble plus être un objet étonnant et pourtant, il y a là quelque chose qui dépasse la mécanique, une autre manière de se déplacer, de regarder sa ville, de respirer. Alors, est-ce qu'enfourcher un vélo, c'est juste choisir un moyen de transport ou amorcer une petite révolution du quotidien ? Je me suis rendue à l'association Place au Vélo à Laval pour parler du programme Libre à Vélo qui accompagne celles et ceux pour qui se déplacer reste compliqué. Et puis pour parler aussi des rendez-vous du 4 octobre dans le cadre du mois du climat, bourse au vélo, atelier, fresque de la mobilité et sortie collective avec les shifters 53. Écoutez. Ça y est, je viens d'arriver 11 allées du Vieux-Saint-Louis à l'association Place au Vélo. Alors, si vous ne visualisez pas, ça se trouve au niveau des anciennes halles. Et alors ici, je suis accueillie avec un sourire. Marie, est-ce que tu peux te présenter à l'auditeur de l'autre radio ?
Bonjour Margot. Alors d'abord, je suis ravie de te présenter notre bel asso aujourd'hui. Donc moi, je suis Marie, je suis la nouvelle salariée en charge de l'atelier d'autoréparation de Place au Vélo.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qui se passe ici ? Là, on est entouré de vélos, de casques, d'outils.
Oui, tout à fait. Alors ici, en fait, principalement, donc on accueille des personnes qui veulent réparer leur vélo, qui veulent s'autonomiser, parce qu'en fait, ici, on n'est pas un magasin de vélo, donc en fait, on ne répare pas à la place des gens. Mais par contre, on leur met à disposition des outils, ça peut être des pompes, ça peut être des clés, etc., pour en fait qu'ils puissent apprendre et faire eux-mêmes, et essayer, et des fois même se tromper, et puis avoir des conseils de notre part. Du coup, moi, je suis mécanicienne professionnelle, et donc du coup, en fait, mon rôle, c'est quand même d'encadrer et d'essayer de guider les gens. Et puis, en fait, les personnes s'en sortent très, très bien au fur et à mesure qu'elles viennent et qu'elles s'autonomisent et qu'elles prennent goût à la mécanique.
Et alors, c'est quoi tous ces vélos-là qui nous entourent ? Est-ce que c'est des vélos qui sont donnés pour l'association ou qui sont là en attente de réparation ?
Alors en fait, tu as un peu des deux. Tu as des personnes qui viennent nous faire des dons de vélos spontanés. Tu as aussi plein de partenaires, en fait, comme Emmaüs, par exemple, qui ont trop de vélos, qui récupèrent énormément, qui récupèrent des vélos qui sont censés être destinés à la déchetterie et qui, en fait, nous font aussi don de ces vélos. Également, Alternatrice 53, qui nous met aussi à disposition des vélos qui ne peuvent pas être réparés. Et en fait, nous, on est en charge de, justement, essayer de faire le tri de ces vélos. Donc, soit de les démonter et puis de récupérer les pièces si vraiment les vélos sont en très mauvais état. Et sinon, en fait, on essaye le plus possible de reconditionner les vélos et de les mettre à disposition des gens. Donc, par exemple, là, bientôt, on va avoir une bourse au vélo. Et donc, il y a à la fois des particuliers qui vont venir vendre leur propre vélo. Et nous, également, on vend des vélos qu'on a retapés tout au long de l'année.
Ça a lieu le 4 octobre dans le cadre du mois du climat qu'organise le département de la Mayenne. Comment ça se passe exactement cette journée ?
Alors, c'est une journée en fait qui du coup a lieu à la salle des vignes et qui en fait est organisée de cette manière suivante. C'est que les particuliers viennent à partir de 9h jusqu'à midi. Ils viennent donc faire le dépôt de leur vélo. Ils viennent mettre un prix. Bien sûr, il y a une participation de 1 ou 2 euros en fonction des vélos. Donc nous, après, une fois que les vélos sont enregistrés, on les met en exposition. Et l'après-midi, à partir de 14h, on a tout un tas de personnes qui viennent regarder, essayer, et puis faire leur marché, et puis repartir avec leur vélo qu'ils ont acheté.
Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire forcément en amont avant le jour J.
Non, du tout. C'est libre d'accès. Vous venez avec votre vélo, et puis nous et nos bénévoles, on se charge de l'enregistrement.
Et avec les shifters 53, il y a également une excursion collective le même jour.
Oui, tout à fait. Du coup, il y aura une balade collective à partir de 16h qui sera animée par nous et par nos bénévoles. Mais aussi, je voulais revenir sur deux choses. Donc, il y a l'atelier de gravage de vélo Bicycode qui est proposé. En fait, ça vous permet donc de graver votre vélo. C'est un fléau, le vol de vélo. Et ça permet vraiment en fait de lutter contre ça parce que votre vélo, il est identifié avec un numéro unique. Et donc, s'il est volé ou perdu, en fait, la gendarmerie peut retrouver votre vélo. Vous pouvez vous-même le déclarer aussi sur le site internet de Bicycode et vous avez quand même beaucoup plus de chances de récupérer votre vélo. Et en plus, ça incite aussi moins le vol puisque le vélo, il est vraiment marqué, gravé dans l'acier et donc du coup, moins de risque de vol. Il y a aussi un atelier de démonstration d'entretien de vélo où je serai moi-même présente et où du coup je vous expliquerai un peu comment entretenir son vélo au quotidien par des gestes assez simples.
On parle souvent du vélo comme d'un geste pour la planète, mais pour toi, qu'est-ce que ça change vraiment, même au-delà des chiffres carbone ?
Alors pour moi, vraiment, c'est à la fois de l'autonomie, parce qu'en fait, on n'a besoin de pas grand-chose pour utiliser son vélo, si ce n'est de sa propre énergie et de son propre carburant, sa propre nourriture. Et en fait, pour moi, c'est même un vecteur d'émancipation, en fait. Pour moi, mon propre exemple qui, du coup, est commencé par faire du voyage à vélo et qui, du coup, suis devenue mécanicienne au fil du temps en me prenant au jeu, en fait, d'avoir des connaissances et puis d'être animée par ce plaisir de faire de la mécanique et de mettre les mains dans le cambouis.
Et alors, l'association a également quelque chose qui a démarré déjà il y a quelques jours, c'est Libre à vélo. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors Libre à vélo, du coup, c'est un programme qui donc est lancé par notre association Place au vélo suite à un appel à projet de donc la fondation RATP et l'ONG Acted. ainsi que du coup Laval Aglo. Nous sommes lauréats de cet appel à projet avec également belles associations de vélos qui sont du coup Place au Vélo Angers et La Roche-sur-Yon Centre Vélo. Et donc ça nous a permis de lancer ce programme qui du coup a trois volets. Donc en fait c'est l'apprentissage de la pratique du vélo, l'initiation à de la mécanique vélo et l'accès à un vélo pour des personnes qui n'en auraient pas. Et donc ce programme, à qui il est destiné? Parce que ça c'est un petit peu le plus important. En fait il est destiné à tous les habitants de Laval Aglo, donc les 34 communes, qui du coup seraient empêchés dans l'accès à la mobilité, soit par leurs revenus, soit par un handicap, soit par des difficultés quelconques. Et donc nous, on a des partenaires, des prescripteurs en fait, qui nous inscrivent des personnes sur des créneaux, que ce soit sur de la vélo-école, donc apprendre à rouler à vélo et être autonome pour rouler en ville ou aller par exemple se rendre à son travail. Ou alors des personnes qui viennent directement ici en atelier et qui viennent apprendre avec moi en fait à entretenir, réparer, etc. pour être autonome et puis par la suite en fait du coup peut-être acquérir un vélo.
Et donc pour entrer dans ce programme, si je puis dire, on est inscrit via la collectivité.
Alors en fait, on a donc les partenaires qui sont... Alors je vais vous en citer quelques-uns, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais donc il y a Alternatri, Bois Debout, le CCAS, le chantier Tremplin Laval Aglo, Enosia et la Légumerie par exemple, qui repèrent par exemple des personnes qui auraient des besoins et qui en fait leur proposent l'inscription à ce programme. Après, dans les faits, il y a aussi des personnes qui peuvent tout à fait s'inscrire sans faire partie forcément de ces partenaires-là. Et qui, en fait on a ouvert quand même globalement assez largement pour des personnes qui ne seraient pas du tout dans ces circuits-là et qui se sentiraient quand même concernées et qui sentiraient que leur accès à la mobilité est vraiment très empêché.
Et alors, ce qui découle de ce programme, c'est l'envie de créer des ateliers qui créent de l'inclusion également.
Oui, tout à fait, parce que en fait, il y a aussi d'autres publics qui sont limités dans l'accès à la mobilité. En fait, ce sont les femmes, puisque en fait, on voit au niveau des chiffres nationaux. Je vais vous donner un chiffre assez parlant, c'est celui de la Fédération des usagers de la bicyclette, dont Place au Vélo fait partie, qui a fait des grandes études et qui démontre que seulement 35% des usagers de vélo sont des femmes. Donc c'est quand même, il y a un énorme gouffre et un énorme gap à combler en fait. Donc on a mis en place, et ça va démarrer très prochainement, les ateliers en mixité choisie, donc par et pour les femmes, que je vais animer.
Pour suivre les actualités, pour se tenir au courant de quand ça démarre, peut-être qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, site internet.
Oui, tout à fait. Il faut surveiller notre actualité sur Facebook et Instagram. Là, on a deux actualités assez chargées. Le 4 octobre, bien sûr, ça sera la bourse au vélo. Le prochain atelier en mixité choisie, c'est le 18 octobre. Donc, vous pouvez venir vous inscrire sur notre site. Toutes les infos sont là.
Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour ton accueil au 11 Allée du Vieux-Saint-Louis dans l'association Place au Vélo. À très bientôt.
Ben, merci à toi, Margot. À bientôt.
Et puis comme chaque vendredi, c'est l'heure de la chronique de Magnet, un petit coup de projecteur, bien à lui, écoutez.
La chronique de Magnet, sur l'eau contre la douche.
Bonjour toi. Il paraît, et je dis bien, il paraît, que pour la génération Z, alors là, si tu dis comme Zorro, tu refroidis. Pour la génération Z, disais-je, une question est devenue un réflexe. C'est quoi ton signe? Le pif à l'affût, les marques ont pris la balle au bon, et voilà-t-il pas qu'Amazon, avec un Z comme Zigounette, recommande une liste de courses en fonction de ton signe zodiacal. Ou astrologique, si tu préfères. Et la blague qui n'en est pas une, faut quand même pas déconner avec les actionnaires, se propage entre autres chez McDonald's qui, au Canada, brade ses menus because Mercure rétrograde. Authentique. Authentique. Plouf ! On replonge dans l'ésotérisme, faute de mieux. La longue période de la Covid a accéléré cette démarche qui consiste à se tourner vers l'astrologie pour trouver des réponses quand on ne se retrouve pas ou qu'on se retrouve bredin. Bredin, c'est bourbonnais. En gros, un peu zinzin. Oui, avec deux Z. Et dans ma jeunesse, des copains tenaient un fanzine qui s'appelait le débrodi noir. Bon, c'est pas tout. Qui suis-je? Où sommes-nous? Dans quelle étagère? Etc. etc. Ah, t'habilles chez tes parents? Ah non, non, là, je m'égare. Évidemment, réseaux sociaux à la clé, la chose a pris du poids. Même Netflix te propose une sélection selon ton signe. Elle est pas belle, la vie. Je rigole pas, ce phénomène porte même un nom, l'astro-marketing. En gros, ben justement, c'est pas du gros, c'est du sur-mesure. Et attention, ma petite dame, mon brave monsieur, dans la folie actuelle, les chiffres parlent. Ça m'a toujours fait rigoler, cette expression, les chiffres parlent. Évidemment, si tu dis zéro, ça parle à tout le monde. Selon un sondage IFOP, de 2020, 73% des Français de 18-24 piges croient au moins en une discipline d'art divinatoire. En 2024, ils sont plus de 15 millions sur l'astrologie du net. Je pige mieux les marques qui sautent sur le mouton. Quoi mes nouilles? Qu'est-ce qu'elles ont mes nouilles? Et mes œufs, pas frais mes œufs? Mais dis-moi, vieux Capricorne, tu ne ferais pas un petit coup de Saturne? Bref, on te propose de te traiter aux petits oignons, que tu rugisses ou que tu fonces. Scorpion, Gémeaux, on s'en balance. Les recettes sont prêtes. Avec l'ascendant, qui sait, peut-être une sauce spéciale. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi, il faut que j'aille faire mes courses. Et j'aimerais bien déjeuner en paix. Tu sais, Jojo, tempête. Tu l'avais vu, Stéphane Echer, quand tu es passé au carré, il y a quoi? Non. C'était extraordinaire. Mm-hmm. C'était extraordinaire. Sur scène.
On avait parlé, je crois.
Ah oui, certainement. Ouais. Certainement. On avait été emballé, enfin, toute la salle, on avait été emballé par la prestation de ce. Mm-hmm. Il est bon, le Suisse.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix.
reste ou qu'elle vient. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. La musique originale de votre émission est signée Lénaïk Folzour. Avant de se quitter, petit tour d'horizon de ce qui vous attend sur l'autre radio. Ce soir à 19h, c'est Dance Hall Social Club qui prend les platines pour nous plonger dans ces sucreries musicales du passé. Tout de suite à 13h, cap sur le cinéma avec Cinérama, Info, chronique de films, interview et même blind test sonore avec Marine, Vincent et Emmanuel. Un coup d'œil quand même sur le week-end avant de se quitter à 13h, samedi, ce sera Rock Dreams qui mettra en lumière Manfred Mann's Hertz Band. Et dès 13h30, restez à l'écoute de l'autre radio puisque notre studio sortira des murs pour une émission spéciale en direct du festival de la BD de Château-Gontier avec Fabrice et Morgane à l'animation toujours samedi, notez bien 13h30. Enfin, dimanche à 11h, retrouvez Sport Épique, une émission qui vous propose des débats, des chroniques et des invités, toujours dans la bonne humeur autour du sport en Mayenne et pas que. Un beau programme pour remplir vos oreilles tout le week-end, toujours sur l'autre radio. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. On commencera une semaine spéciale sur les semaines d'information sur la santé mentale. D'ici là, laissez bien la semaine derrière vous. Ouvrez grand les bras au week-end. S'il vous plaît, faites-le bien.
Fin de l'émission, mais pas de notre histoire.
Ah ben, surtout pas, Mimi.